RCF. Le temps de le dire, Antoine Bélier.
Bonjour à tous, hommes, femmes, seniors, personnes porteuses de handicap ou venant de quartiers défavorisés, chacun quelle que soit sa spécificité ou sa différence, devrait être en mesure d'avoir toute sa place dans l'univers de l'entreprise. Pourtant, nous le savons, cet accueil des diversités, cette inclusion, pour employer le terme consacré, est essentiel. Plus qu'un sujet à la mode, qui pourrait avoir un aspect marketing sans réelle substance, l'inclusion a en réalité un impact directement positif en termes de performance pour les entreprises qui jouent le jeu. Signe de maturité, cette intégration de l'accueil des diversités n'est cependant pas un long fleuve tranquille. Les obstacles sont nombreux, cela demande de l'audace, de savoir prendre des risques, mais au final, comme l'affirme Marie Donzel, experte de l'inclusion et de l'innovation sociale, dans un monde qui se transforme rapidement et incessamment, avant même de se demander si c'est possible, il faut prendre acte du fait que c'est nécessaire.
Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
Quelle inclusion en entreprise ? Nous allons nous poser la question ce matin jusqu'à 10h avec mes trois invités. Julien Viau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé d'études et de développement, pôle mobilisation du monde économique et social à l'AGFIP Île-de-France. L'AGFIP, c'est l'association de gestion de fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Sylvie Léoloco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet diversité à Opcalia Île-de-France. Alors Opcalia, c'est, je le précise, un organisme agréé par l'État pour gérer, optimiser et financer les actions de formation engagées par les entreprises, est-ce exact ?
Presque, puisqu'on est ACTO depuis le 1er janvier, on est ACTO Réseau Opcalia.
D'accord, donc
voilà,
merci.
C'est un regroupement de plusieurs OPCA.
Bruno Bassiotti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Entreprendre pour apprendre Île-de-France. Son objectif, c'est de développer l'esprit d'entreprise chez les jeunes à travers différents programmes d'accompagnement. Je ne sais pas si j'ai bien résumé l'objet de votre association. En tout cas, comme chaque matin, vous qui êtes à l'écoute de cette émission, vous avez la parole. Comment améliorer l'inclusion, la diversité en entreprise ? Vos témoignages sont attendus au standard de l'émission ou par mail, letemps-de-le-dire@rcf.fr.
Vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23.
On commence par la définition du thème, c'est notre habitude dans le temps de le dire. Alors comment on pourrait définir l'inclusion ? C'est un thème en fait très, très large, hein, Sylvie Léoloco.
Ah bah complètement. Je pense que ce terme est très peu connu, même s'il y a plusieurs politiques qui ont parlé de l'inclusion, mais finalement, quand on arrive dans l'entreprise, on parle d'inclusion, en fait, les gens ne savent pas ce qu'est l'inclusion. Donc je pense que déjà, repartir sur des bases, il y a eu beaucoup de termes aussi en France, l'intégration des personnes en situation de handicap, mais quelle est la différence finalement entre l'intégration et l'inclusion ? La différence, elle est quand même importante.
L'intégration, ce serait l'étape suivante ?
Non,
d'avant.
Je dirais que c'est l'étape d'avant. Alors avant, il y a eu l'inclusion, il y a quelques années. Après, les gens se sont dit inclusion, on connaît pas trop, on va repartir à l'intégration, on connaît mieux l'intégration. Finalement, c'est intégrer un groupe de personnes en situation de handicap dans une entreprise. On va intégrer, on va adapter des outils pour ces personnes qui sont différentes. L'inclusion, c'est pas ça du tout, en fait. C'est l'étape, largement au-dessus, puisque l'inclusion, c'est considérer la différence comme étant la norme. C'est-à-dire que là, on ne va pas intégrer un groupe, mais tous les éléments sont intégrés dans la société. Pour faire simple, c'est par exemple un enfant qui est dyslexique et qui va à l'école. Avant, on lui mettait des outils vraiment spécifiques. Il y avait un ordinateur, on écrivait plus gros, voilà. Maintenant, on essaye de faire en sorte que toutes les écritures soient pour tout le monde.
Ça veut dire que finalement, l'inclusion, c'est la prise en compte des minorités. On pourrait dire ça comme ça, Julien Viau ?
Oui, et puis c'est se dire que c'est à l'environnement, c'est le sens de la loi de 2005 si on parle d'intégration de personnes en situation de handicap, c'est à l'environnement aussi de s'adapter et d'intégrer, d'inclure des personnes en situation de handicap. Ça n'est pas à la personne de fournir l'effort ou de montrer sa bonne foi, sa bonne volonté, mais c'est justement le principe de l'intégration par la société de spécificité. Ce que je vois, moi, mon intuition par rapport à ça, c'est aussi que on va faire de la différence une force. Là où dans l'intégration, on avait un mouvement de j'absorbe, mais de manière un peu contrainte. On a dans l'inclusion un vrai levier pour... la différence pour permettre aussi à l'entreprise de se développer différemment avec des talents différents, avec des spécificités. On a des personnes qui viennent de quartiers différents, on a des personnes qui ont des trajectoires professionnelles parce que elles ont été obligées de se former tout au long de la vie, parce que justement les contraintes médicales les ont obligées à aller vers autre chose, elles ont appris, elles ont des compétences transférables et du coup ça leur confère un profil riche, des compétences différentes, et c'est cette différence qui va devenir une force. Là, on avait vraiment une contrainte, me semble-t-il, avec cette
beaucoup,
démarche d'intégration.
Oui, pour beaucoup d'entreprises encore, j'allais dire que l'inclusion, c'est encore considéré comme une contrainte, non ? Vous serez d'accord avec, vous seriez d'accord avec cette analyse, Bruno Baciotti ? Et comment, justement, si c'est encore considéré comme une contrainte, comment faire changer les choses ?
Oui, si on parle d'handicap, moi, je m'intéresse plutôt aux minorités des quartiers. Donc, à part le problème du faciès, on va dire, il n'y a pas beaucoup de différence entre un travailleur, on va dire, issu des quartiers et celui issu des quartiers bourgeois, quartier politique de la ville, je parle. Moi, ce qui m'intéresse dans vos propos, c'est l'inclusion des gens qui ont été éloignés de l'emploi parce qu'ils vivent dans des cités épouvantables. On les a enfermés pendant des décennies dans une espèce de blocos dans lequel ils n'ont aucune visibilité sur l'extérieur. Et pour reprendre votre question, je pense que les entreprises, quand on leur présente les cas d'inclusion de personnes éloignées de l'emploi du fait des quartiers, c'est peut-être un peu plus facile. Je parle d'un ancien patron aussi, que ceux qui viennent peut-être du handicap physique, par exemple, ou pire, mental. Donc,
pourquoi ce serait plus facile ? Il y aurait moins d'adaptation de la part de l'entreprise à effectuer ?
Parce que malheureusement, mes collègues patrons d'entreprise ne sont pas toujours ouverts à la diversité, on va dire, et au handicap. Alors, il y a des problèmes matériaux. On l'a vécu, nous, récemment dans l'association, en accueillant une jeune fille en fauteuil roulant où il y a une accessibilité minable. Beaucoup d'entreprises ne sont pas très adaptées. Moi, j'ai eu des usines où il était difficile de rentrer.
Malgré la loi, Julien Viau.
Malgré la loi, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que dans 4 cas sur 5, les intégrations de personnes en situation de handicap se font sans aménagement, si elles sont correctement accompagnées. Alors effectivement, ce qui laisse souvenir, c'est quand c'est compliqué. On rappelle aussi qu'au sein du public en situation de handicap, on n'a que 4% de personnes en fauteuil. Alors effectivement, lorsqu'on est exposé à la situation, on rencontre au quotidien des contraintes fortes. L'AGFIP peut aider aussi à compenser, à soutenir l'accessibilité, mais clairement, ça suppose un effort et on a là pour le coup des dispositifs qui sont à disposition. Mais ça se fait la plupart du temps, on veut le rappeler et on le rappelle aussi avec les réseaux ACTO, ça se fait la plupart du temps sans aménagement et assez facilement si on a une disponibilité d'esprit.
Mais ça demande, Sylvie Léoloco et Julien Vieux viennent le dire, ça demande un véritable engagement de la part de l'entreprise quand même.
Bah, c'est ça la difficulté, c'est que de se prendre, enfin que les entreprises prennent en compte cette richesse, parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans une entreprise, finalement, ça va être l'image du fauteuil roulant. Et là, ça coûte cher, ça nécessite des moyens. Et je dirais que le seul engagement, c'est la volonté d'intégrer une personne ou d'accueillir une personne. C'est vraiment la seule différence. Donc du coup, l'AGFIP aide énormément. Mais même quand on sait qu'il y a l'AGFIP qui est derrière, les entreprises elles ont peur, en fait, tout simplement, parce que c'est la différence, et la différence, on ne sait pas la gérer. Intégrer une personne qui est autiste, on ne sait pas, on n'a pas de mode d'emploi, en fait. C'est ça, donc du coup, il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place à l'heure actuelle, et des associations vraiment qu'on salue, pour lever un petit peu tous ces freins,
oui,
parce que ce sont des freins.
On ne peut pas improviser l'inclusion, quand même.
Non, voilà, c'est pas inné, en fait, ça s'apprend.
Et ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les entreprises, au-delà de leurs obligations légales, ont envie de faire, nous demandent, aidez-nous, comment on s'y prend. Et ça, c'est plutôt un signe positif, c'est-à-dire qu'il y a une véritable démarche, il y a une volonté, il y a même du temps qui pourrait être pris à cette démarche. Alors effectivement, on est avec les réseaux ACTO, avec les réseaux Cap Emploi, l'AGFIP, disponibles pour accompagner les entreprises qui souhaitent répondre à leurs obligations légales, mais qui au-delà ont envie d'avoir une démarche inclusive et puis d'assumer leurs responsabilités sociales.
Ouais, alors très concrètement, à l'association Entreprendre pour Apprendre Île-de-France que vous présidez, Bruno Baciotti, comment vous vous y prenez avec ces jeunes issus des quartiers défavorisés ?
Alors, le dispositif, ça s'appelle une mini-entreprise. une mini-entreprise, c'est 15 jeunes en gros, bon, ça peut être moins, c'est mieux si c'est moins, qu'on va réunir en début d'année scolaire, puisqu'on est sur un cycle scolaire en général, et on va leur dire, ben voilà, on va créer avec vous une entreprise. Donc déjà, les regards sont à peu près aussi étonnés que si on leur montrait un éléphant rose dans leur cours d'école. Et ensuite, on leur explique petit à petit comment on trouve un produit, dont on a des méthodes, et ensuite on leur donne des rôles. Donc ceux de l'entreprise par pôle, marketing, commercial, communication, financier, etc. Et là, ils rentrent vraiment dans le jeu parce qu'ils vont matérialiser ce que c'est que faire un produit, le vendre et communiquer autour. Voilà la méthode.
Et donc, ça veut dire que la transition sera plus aisée quand ils trouveront un emploi, c'est le but ?
On espère. Ouais. En tout cas, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que quand on rentre, ils n'ont aucune notion de ce qu'est une entreprise. Quand ils en sortent, ils savent déjà ce que c'est qu'une entreprise et ils ont travaillé dans une entreprise.
Mmh. Il est 9h14 sur RCF. Avant de faire une première pause musicale, j'aimerais prendre en ligne un premier auditeur. Il s'agit d'Alexandre qui nous appelle du côté d'Angers, il me semble. Alexandre, bonjour. Alexandre, vous êtes le bienvenu sur RCF. Bonjour, nous vous écoutons.
Bonjour, Alexandre, dont je suis personne handicapée. Suite à un accident de la vie, amputé métatarsien, après un parcours professionnel d'une trentaine d'années, plutôt de cadre moyen supérieur. Et donc, je voulais témoigner du fait que les structures qui sont chargées de favoriser notre inclusion au niveau de l'emploi et de la formation sont elles-mêmes des facteurs d'exclusion par leur fonctionnement. Et globalement, les maisons de les MDPH, les Cap Emploi et Alors là, je ne suis pas encore en contact parce que c'est déjà très en amont.
Et pourquoi vous dites cela, Alexandre ?
Mais parce que c'est mon vécu. Je suis en plus trésorier, pas que mon vécu personnel, puisque je suis trésorier de la Fédération départementale des personnes malades et handicapées.
D'accord, donc il y a encore beaucoup de travail à faire, on l'entend, avec ce propos d'Alexandre, Sylvie Leoloco.
Oui, je suis tout à fait d'accord, il y a énormément de travail à faire. On est, moi je vois aussi, pas que la France, je vois aussi dans d'autres pays. Là-bas, il y a des personnes qui sont en France qui me disent, je suis handicapée, comme si c'était une fiche de poste, comme si c'était un métier d'être handicapée en France. Et quand ils arrivent dans d'autres pays, ils disent, ben là je ne suis ni handicapée, ni même en situation de handicap. Parce que c'est là aussi, il faut vraiment voir
la différence dans le vocabulaire.
Exactement,
ces
termes de « je suis handicapé » ou « je suis en situation de handicap ». Et les différences sont énormes. Donc en France, je le reconnais et je reconnais qu'il y a énormément de travail de prise en compte et de prise en charge. Même si je reconnais, parce que je travaille beaucoup avec la GFIP depuis des années, qu'il y a un gros travail qui s'est fait ces dernières années. Je conseille aux monsieur d'aller voir aussi la GFIP parce qu'ils sont... directement.
On n'a pas la culture de l'inclusion encore en France, en gros, c'est ça, Julien Viau.
Ce que j'entends du témoignage de monsieur, c'est aussi la lourdeur administrative, ce qui est une réalité. Enfin, on va pas se cacher derrière nos petits doigts par rapport à ça. Sans être provocateur, il y a aussi un effet aujourd'hui d'ouverture, c'est-à-dire que de plus en plus les personnes qui peuvent être concernées comprennent que cette démarche de reconnaissance administrative du statut de travailleur handicapé confère des droits. Ça ne délivre pas une identité. Je suis handicapé et je suis handicapé à vie. C'est pour ça qu'on parle de situation de handicap. Alors, je m'éloigne pas, monsieur, si vous nous entendez encore de votre témoignage, mais je veux apporter aussi cet éclairage. Et du coup, les publics concernés ont compris qu'à travers ces droits, elles pouvaient effectivement avancer peut-être un peu plus facilement. Et donc, on a une explosion du nombre de demandes de reconnaissance travailleurs handicapés. Et effectivement, ça engorge les traitements administratifs et la délivrance de ces reconnaissances. Alors après, peut-être quelques conseils à lui donner. D'abord, effectivement, vous pouvez découvrir les ressources et les outils proposés par la GFIP, en particulier le site emploi que nous avons mis à jour tout récemment, donc sur agfip.fr, où vous trouverez des offres d'emploi disponibles. Et puis, nous avons une offre d'intervention globale pour l'aide au recrutement et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Les réseaux Cap Emploi peuvent réagir, je dirais, de manière très ponctuelles autour d'offres d'emploi. On n'est pas obligé d'engager un accompagnement complet. Si monsieur est au clair sur sa recherche d'emploi, sur les postes qu'il peut viser, on peut être sur du one shot entre guillemets et en bon français pour effectivement pousser sa candidature au maximum. Le dernier conseil, c'est de viser, j'ai cru comprendre que monsieur avait un profil de cadre, de viser et de manière très autonome les missions handicap des grandes entreprises directement pour aller les chercher et leur présenter le parcours, les compétences.
Pour rebondir en un mot sur ce qu'a dit il y a quelques instants Julien Viau, Bruno Biasciotti, le risque, pour faire l'analogie, là on parlait des personnes handicapées, mais on peut maintenant parler des jeunes issus des quartiers dits défavorisés, le risque c'est de les réduire à une identité en fait. Et c'est en faisant cela qu'on empêche une inclusion véritablement, pertinente.
Oui, le risque, c'est effectivement de les réduire à une identité, mais le risque, il est plus grave. Le risque, c'est de ne pas aller vers eux et qu'ils ne trouvent pas de travail. Je le disais jeudi soir lors d'un débat public, on a un gros risque de voir les cités exploser. Moi, ça fait 5 ans que je m'intéresse à ce sujet. On a exclu, on a exclu des millions de personnes. Et on s'étonne après d'avoir 2 attentats par an. Mais c'est plus 2 qu'on va avoir par an, ça sera 1 tous les mois bientôt. Parce que la situation est dramatique. Donc il faut aller vers eux. Il faut leur apprendre que on les attend et on a du travail, beaucoup de travail.
L'inclusion en entreprise, c'est un sujet véritablement à enjeu pour notre société. Nous continuons d'en parler juste après cette première pause musicale sur RCF. N'hésitez pas, comme Alexandre, à prendre la parole pour cela. Le 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous écrire le temps de le dire @rcf.fr. Send love, spread peace. C'était Ringo Starr sur RCF.
Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
Image de la société, le monde entrepreneurial tente à se convertir à davantage d'inclusion, quels que soient les types de diversité. C'est ce dont nous parlons ce matin dans le temps de le dire sur RCF. Avec mes invités, Julien Viau, chargé d'études à l'AGFIP, Sylvie Leoloco, chef de projet diversité à Acto Île-de-France, et Bruno Bassiotti, président de l'association Entreprendre pour apprendre Île-de-France. Alors de quelle manière les entreprises sont-elles en train d'adapter leur mode de recrutement pour davantage d'inclusion? Bruno Bassiotti, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples à travers aussi ce que vous menez comme action, vous, dans cette association Entreprendre pour apprendre Île-de-France?
Alors, vous passez de la mini-entreprise à « je suis recruté parce que j'ai des compétences ou des talents ».
C'est ça, on avance.
Exactement. Donc, effectivement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire émerger des talents, des jeunes. On parle de compétences après, mais déjà faire émerger des talents. Et ensuite, on essaye de les accompagner vers l'inclusion, donc vers l'entreprise. Alors, je pense en particulier à un jeune qui est sorti de prison, parce qu'on fait aussi des mini-entreprises en prison. Qui s'appelle Chris. On a détecté chez lui des talents et on l'a accompagné, on est en train de l'accompagner chez nous, Entreprendre pour Apprendre, pour lui trouver une entreprise dans les quelques mois qui viennent. L'entreprise, elle doit s'ouvrir, effectivement. Elle doit comprendre que Chris, il a fait 30 mois de prison entre 18 et 21 ans, mais il n'est pas foutu pour autant. Et peut-être que ça lui a même apporté, les 30 mois de prison. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à l'entreprise.
Donc il faut convaincre l'entreprise. C'est vrai pour les jeunes issus des quartiers sensibles, mais c'est vrai aussi pour les personnes ayant un handicap, les personnes seniors aussi. On en parlait un peu en antenne avec vous, Sylvie Leoloco. Pour toutes les personnes qui font partie de telle ou telle minorité, on dit ça comme ça, il y a une nécessité de convaincre les entreprises pour qu'ils embauchent ces personnes. Alors comment vous vous y prenez, peut-être à Acto, pour convaincre les entrepreneurs?
Déjà, c'est recruter des compétences. Donc, du coup, ça met de côté, est-ce qu'une personne est en situation de handicap? Est-ce que c'est une femme? Ou est-ce que c'est un homme? Hein, parce que ça, moi, je travaille aussi sur l'égalité professionnelle, et ça, c'est aussi un grand sujet. Mais ça peut être le terme qui vient de ressortir en ce moment, c'est l'âgisme. Donc, du coup, vraiment, on met tout le monde dans des cases. Là, l'inclusion, c'est l'inverse. C'est-à-dire que chacun a des compétences. Et,
c'est partir des compétences, c'est pas partir du fait donc, que la personne est senior ou femme ou
non,
handicapée.
Non, parce qu'on a tous. On a tous nos points forts et nos points faibles. Ce qui est important, c'est qu'il y a certaines entreprises, par exemple, qui mènent des... il n'y a pas des grands principes, il y a des process qui sont mis en place dans les entreprises, mais c'est plus à l'heure actuelle, on essaie et on teste. Il y a une grande entreprise qui a décidé de recruter et de faire ça dans un showroom et de mettre les personnes en situation. Ils n'ont pas été voir le diplôme, ils ont été voir les compétences sur le terrain. Parce qu'à l'heure actuelle aussi, on parle beaucoup des soft skills, c'est-à-dire l'attitude de la personne, comment elle va s'intégrer. Donc voilà, à l'heure actuelle, on n'est pas sur des process bien définis, puisqu'on est en train de construire finalement cette culture et cette inclusion. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'inclusion, ce n'est pas simplement au niveau de l'entreprise, c'est au niveau des écoles, c'est tout ça. Donc on va mettre quand même pas mal d'années, si on ne fait pas marche arrière, parce qu'on a tendance, des fois, en France, à faire un petit peu, des fois, marche arrière, marche avant. Il va falloir continuer à avancer.
Il faut travailler en amont, en fait, c'est ce que vous voulez dire.
Et vraiment les compétences des personnes, en fait.
Julien Viau, pour compléter.
Mais il y a d'ailleurs une forme de tyrannie là-dessus, c'est-à-dire que l'entreprise est très codifiée. L'entreprise est très codifiée, les process de recrutement sont extrêmement, extrêmement réglés. Si on n'est pas sur ces rails-là, on est à peu près certain de pas s'ouvrir les portes de l'emploi, je caricature à peine. Donc c'est pour ça qu'on a des démarches qui sont assez intéressantes. Effectivement, en France, on recrute beaucoup, Sylvie Leloco le disait, à partir du diplôme, à partir de l'expérience, à partir du niveau, à partir des réseaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir des initiatives comme celle, par exemple, du recrutement sans CV, celle de la mise en situation, du test, de la vérification de l'habilité. Parce que là, on va être sur la compétence. Alors, c'est pas toujours possible sur l'ensemble des métiers, mais là, on va voir comment réagit la personne de manière spontanée, comment éventuellement elle va prendre une initiative et comment elle va pouvoir éventuellement se projeter dans l'entreprise. Ça, c'est intéressant parce que sinon, on est vraiment, et c'est pas à capillotracté ce que je dis, on est vraiment sur... Des examens de CV, des examens de parcours de formation qui, monsieur le disait très bien, lorsqu'on est sortant de prison, est tout à fait, peuvent être tout à fait excluants.
Oui, donc il faut élargir la notion de compétence. Finalement, Bruno Bassiotti, pas se résumer au savoir-faire, mais aussi au savoir-être. Donnez-nous des exemples de compétences qui peuvent être valorisées de la part de ces jeunes qui fréquentent votre association.
Alors, le digital. Quand on rentre dans une classe, on leur dit, on prend notre smartphone et on leur dit qui a un smartphone. Ils en ont tous un, quel que soit le milieu d'ailleurs. Et qui a fait l'application, Apple ou Samsung ou etc. Bon, Alors on leur explique que non, on leur explique que c'est pas eux et que ça se fait dans des sociétés à Saint-Denis aussi, dans le 93, et qu'il faut donc apprendre un peu, mais que c'est pas si compliqué que ça, que ces compétences on peut les acquérir. Et on a beaucoup de jeunes qui deviennent des amoureux de ces genres d'applications. Alors ils commencent peut-être par du community management, mais ils peuvent aussi faire du développement. Et ça, on en a pas mal qui commencent à s'ouvrir vers le digital.
Est-ce qu'il existe des formations pour mieux accueillir les diversités en entreprise ? À quoi les recruteurs doivent-ils être attentifs et de quelle manière ces formations peuvent les aider à améliorer justement les choses en termes d'inclusion ? Non ? Ça n'existe pas encore ?
Si, bien sûr, ça existe. Ça existe. Nous, la formation, c'est le cœur de notre, enfin, c'est notre ADN au sein des OPCO. Je dirais qu'il y a des cours, hein, il y a des formations pour apprendre qu'est-ce que l'inclusion, comment intégrer une personne en situation de, voilà, il y a tout ça.
Mais c'est pas essentiel, c'est ce que vous voulez
peut-être signifier. Oui, c'est-à-dire que il y a trop de process à l'heure actuelle. Il faudrait que chaque RH, en fait, ou chaque manager, hein, quand on recrute, on va avoir des stéréotypes, hein, des préjugés par rapport à la personne. Effectivement, hein, Chris qui sort de prison, vous imaginez un recruteur qui voit ça, il va se mettre. En fait, il faudrait apprendre à chaque RH à avoir une page blanche à chaque fois qu'on recrute une personne. C'est-à-dire à ne pas mettre tout ce qu'on a dans notre tête, dire « Ok, c'est une page blanche que je vais écrire. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ?» Voilà. Et à partir de là, l'être humain est quand même assez fait, bien fait. L'être humain est capable
d'adaptation,
de s'adapter. Ouais. Voilà, quand vous perdez, par exemple, l'ouïe ou la vue, votre cerveau va compenser. Donc, cette notion de compensation est très, très importante dans les entreprises. Quand on reçoit un CV, la personne, elle a eu un parcours. À 45 ans, il lui arrive un accident de la vie. Ça ne veut pas dire qu'elle est finie, mais son ancien métier, elle ne peut plus l'exercer. Il faut se recentrer sur un autre métier. Donc, c'est important d'à chaque fois qu'on recrute, d'avoir une page blanche, finalement. Donc, il y a énormément de techniques.
Mais ça, c'est dans l'idéal.
Bah, soyons, ça, c'est ce qu'on devrait faire.
Soyons honnêtes, quand même, c'est dans l'idéal. Tous les recruteurs n'ont pas cet idéal-là en tête et dans leur pratique.
C'est pour ça aussi que dans les cours de RH, on voit très, très peu la notion d'inclusion, de handicap. On le voit très peu à l'école. Hein. Enfin, nous, quand on reçoit les jeunes, ils sortent avec un master RH. Quand on leur dit, vous avez fait l'inclusion, le handicap, non, c'est la personne en fauteuil roulant, c'est l'aveugle. Mmh. Voilà, ça s'arrête là. Donc, du coup, on part de loin quand même. Alors, l'entreprise, c'est le dernier maillon, finalement. Hein. Donc, il y a des formations pour ça. Mais après, une formation, il faut que ça s'applique aussi sur le terrain. Mmh. Et il faut, pour l'appliquer sur le terrain, en fait, il faut recruter des personnes qui soient différentes, parce que là, je ne parle pas que du handicap, mais il faut accepter ces personnes-là, les prendre en stage. Il y a les DUOD qui existent. Il y a énormément de choses, parce que justement, les gens vont prendre conscience. Bah, tiens, cette personne, elle est dyslexique, elle m'a appris des choses. Elle est autiste, elle m'a appris des choses.
Oui, et il faudrait aussi que l'inclusion ne soit pas une norme parmi d'autres, c'est-à-dire encore une norme de plus pour un chef d'entreprise. Julien Viau.
Non, c'est travailler justement sur cette richesse que peut apporter une personne différente. Enfin, si on devait le résumer simplement, c'est ça. En fait, le RH ou le recruteur, qu'est-ce qu'il cherche à savoir ? Ce qu'il cherche à savoir, c'est si la compétence est là. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ces phases de mise en situation. C'est-à-dire qu'on dépasse le CV, on dépasse le profil, on dépasse le parcours, même accidenté, de la personne, et on va essayer de vérifier si les qualités professionnelles et de comportement attendues sont présentes. Il faut bien voir aussi, je reviens sur les codes, qu'un process de recrutement, c'est... Ça peut être très déstabilisant, c'est-à-dire qu'on a 2-3 entretiens avec des personnes différentes, on pense qu'on a coché les cases et puis on rencontre un nouvel interlocuteur dans l'entreprise et on se demande effectivement si on avance correctement. Alors que mettre quelqu'un en situation professionnelle directement, lui proposer une alternance par exemple, qui va lui permettre encore une fois de démontrer sa motivation, ses compétences transférables, on insiste aussi beaucoup là-dessus. C'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience dans le secteur en question qu'on n'a pas des qualités issues d'autres parcours, d'autres expériences qui pourraient être mobilisées dans l'entreprise. Donc, aller sur le faire, aller sur la mise en situation pour dépasser des codifications liées au recrutement et puis effectivement un certain nombre d'idées préconçues par rapport au profil.
Allez, on va poursuivre notre réflexion dans une petite minute sur RCF dans le temps de le dire en parlant après cette nouvelle pause des apports de cette diversité en entreprise. À tout de suite.
Le temps de le dire revient dans un instant. L'échappée belle en musique, c'est votre rendez-vous quotidien consacré à la musique classique. Dès 14h, c'est toute une équipe de mélomanes passionnés qui vous permet de vous immerger au cœur de l'univers des plus grands compositeurs et des meilleures nouveautés. L'échappée belle en musique pour un début d'après-midi classique du lundi au vendredi sur RCF.
Et si les soldes étaient l'occasion idéale pour donner du sens à votre quotidien ou celui de vos proches ? La boutique RCF vous propose une remise de 20% sur toute la collection Les Essentiels. Spiritualité, psychologie, prière, famille, philosophie. Tous les coffrets à moins 20%. Profitez-en ! Renseignez-vous en appelant le service auditeur au 04 72 38 62 10.
Permettre aux entreprises d'accueillir des profils divers et variés, c'est un enjeu devenu central aujourd'hui à l'heure de la valorisation de l'inclusion sous toutes ses formes. Comment rendre possible au XXIe siècle une entreprise plus inclusive ? Nous tentons de répondre à cette question dans le temps de le dire avec Bruno Bassiotti, président de l'association Entreprendre pour Apprendre Île-de-France, Julien Viau, chargé d'études à l'AGFIP et Sylvie Leoloco, chef de projet diversité à Acto Île-de-France. Alors, hors antenne, Bruno Bassiotti, vous nous évoquiez un exemple d'une jeune femme qui a été accueillie dans une entreprise, une jeune femme, je crois, handicapée, et ça a changé le regard des salariés sur l'handicap. Ça les a fait évoluer fortement, je crois.
Tout à fait. C'est chez Entreprendre pour Apprendre, puisqu'on a 18 permanents salariés ou bénévoles ou un médecin de compétences, et on a des stagiaires. On a accueilli l'année dernière, on l'accueille cette année à nouveau, une jeune femme en fauteuil roulant, avec un fort handicap, qui parle très mal, que j'ai rencontré en mini-entreprise puisqu'elle était mini-entrepreneuse à l'EREA de Garches. Quand elle est rentrée chez nous, on a des salariés qui ont très bien compris, évidemment, puisqu'on est normalement bienveillant et une association extraordinaire, ouverte à tous, etc. Mais il y en a certains, qui ont vu ça
d'un mauvais œil
et qui ont été un peu, qui m'ont dit oui, mais elle sera pas aussi efficace, etc. J'ai eu dans une association, hein. Et puis l'œil a changé, hein, puisque elle était extrêmement efficace. Elle travaillait sur des heures aménagées, mais je n'ai jamais vu des fichiers Excel aussi bien tenus que les siens. Alors elle était en bac, hein, elle passait son bac, donc on lui a pas demandé de faire des choses extraordinaires, mais elle nous a mis une base de données à jour de 250 projets, chose que personne dans l'association n'avait fait jusqu'à présent, et ça en 15 jours.
Oui. Julien Viau, vous auriez, j'imagine, des milliers d'autres exemples à donner.
Oui, et puis sans forcément dire que les personnes en situation de handicap sont exceptionnelles, elles ont des compétences. Ça, c'est ce qui est important de voir. On se posait la question aussi de ce que peut apporter la diversité en entreprise. Je pense qu'elle peut répondre à des enjeux très concrets, notamment de recruteurs. C'est-à-dire que si on s'ouvre au public senior, si on s'ouvre au public issu de quartiers dits défavorisés, si on s'ouvre au public en situation de handicap, eh bien on va pouvoir sourcer différemment et on va pouvoir trouver des profils complémentaires. C'est très concret, mais on l'a vu ensemble avec Sylvie Leloco et le réseau Acto sur les forums seniors, par exemple. Évidemment, un senior, il a une expérience professionnelle, il a les codes de l'entreprise, il a encore une fois ce qu'on appelle des compétences transférables, il a une motivation. On sait qu'il y a une forme de discrimination au recrutement, il y a pu y avoir une forme de discrimination au recrutement de personnes de plus de 50 ans. Et pour le coup, effectivement, lorsqu'on regarde les parcours, ça apporte des compétences complémentaires et c'est un sourcing qui s'ouvre.
Et ça apporte des performances considérable parfois pour les entreprises. En tout cas, est-ce que vous confirmez ce qu'indique notamment le cabinet de Deloitte, Sylvie Leoloco, les entreprises qui pratiquent une politique inclusive génèrent jusqu'à 30% de chiffre d'affaires en plus?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est Monsieur Éric Depau aussi qui dit ça, effectivement. C'est, pourquoi? Parce que c'est la diversité, parce qu'on s'enrichit. Les entreprises.
Dans tous les sens du terme, finalement.
Dans tous les sens du terme, c'est une richesse. Et là, les études, maintenant, elles sont là. Comme disait Julien Viau, il y a un problème à l'heure actuelle de recrutement. Mais on recrute, un RH, il va recruter ce qu'il connaît. Donc du coup, il est sorti de telle école, il va recruter de telle école. Mais c'est, elle est où la diversité dans l'entreprise? Moi, j'ai des directeurs qui me disent, bah voilà, si moi je pose la question à mes managers, ils vont tous me répondre la même chose puisqu'ils sortent tous de la même école. Quel est mon intérêt par rapport à un produit que je veux commercialiser? Donc du coup, c'est un enjeu important. C'est un enjeu aussi... Au niveau de l'inclusion, c'est la diversité, c'est-à-dire qu'on va apprendre avec des personnes qui vont être différentes de nous. C'est pour ça que je ne mets pas forcément que le handicap, mais ça peut être les seniors, les jeunes issus des quartiers. C'est toute la richesse humaine, finalement.
Bruno Bassiotti et ensuite Julien Viaud.
Oui, une remarque par rapport à ça. Vous vous rappelez l'histoire de la télécommande qui a été inventée par... moi, je suis ingénieur de formation. J'ai managé des sociétés dans le médical et dans les télécoms. Et les personnes en situation de handicap apportent des solutions technologiques, je parle, et ergonomiques, qui nous, dans l'industrie, nous intéressent.
Donc plus d'innovation, plus de créativité.
Et solutions des fois beaucoup plus simples que celles que les gens dits valides vont trouver. C'est ça qui est intéressant.
Ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on accueille la diversité, le collectif s'organise différemment, il réagit différemment. Et c'est un retour aussi qu'on a des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique de groupe qui s'enclenche. On va même plus loin et on parle aussi le langage de l'entreprise. Il y a un vrai effet marque employeur. C'est-à-dire que lorsqu'on intègre davantage de femmes, lorsqu'on intègre des personnes issues de quartiers dits défavorisés, lorsqu'on intègre davantage de personnes en situation de handicap, eh bien, je dirais que tous les profils qui correspondent pas effectivement à ces catégories se disent « Tiens, mon entreprise assume sa responsabilité sociale. » Et donc finalement, je me sens aussi peut-être davantage lié à cette entreprise et je vais pas partir tout de suite. Et il y a un effet qu'on constate de fidélisation des talents, qui est un enjeu fort sur certains secteurs. On pense à l'informatique ou le conseil, par exemple. Lorsque l'entreprise arrive à déployer du sens et une vraie place dans la société, lorsqu'elle l'assume, eh bien, c'est un collectif qui réagit différemment et qui fait davantage corps. Et ça, c'est très bénéfique pour la gestion des ressources humaines.
Et finalement, c'est l'objet social de l'entreprise qui passe avant le profit, même si on sait, on vient de le dire, que l'inclusion a des conséquences positives en termes de performance économique.
Ça peut la servir directement, on l'a dit, c'est des compétences différentes, c'est des parcours riches, et donc c'est un objectif de l'entreprise qui est atteint à terme, et encore mieux, on l'a dit.
Souvent on nous dit ça coûte cher. Bah non, enfin quand on voit réellement, c'est ce qu'on nous sort à chaque fois. Quand après on s'installe avec la personne, hein, c'est quelques heures, et là on leur démontre que non, et au contraire c'est une richesse et ça peut leur apporter un profit. Parce que en France on a toujours, enfin moi j'ai travaillé beaucoup aussi avec les Anglo-Saxons aux États-Unis et en Angleterre et maintenant un petit peu au Canada. On a tendance à dire en France, voilà, ça coûte cher, c'est. Mais en fait, non, il n'y a pas de rapport entre les deux, en fait. Il ne faut pas mélanger. Ça peut rapporter, bien sûr, que ça rapporte dans les entreprises, parce qu'il y a la marque. La marque employeur prend de plus en plus d'importance à l'heure actuelle, et c'est important, et ça rapporte. Voilà, et il faut pas... Ce n'est pas un gros mot de dire que le handicap peut être lié aussi à l'argent. Enfin, voilà, c'est... Alors peut-être que je dis des choses, des gros mots à la radio, mais
non.
Mais c'est un fait, pas. Et c'est la richesse, dans tout son ensemble.
Julien Viaud.
Et puis accessoirement, lorsqu'on intègre des personnes en situation de handicap, lorsqu'on intègre davantage de femmes, davantage de publics divers pour faire simple, eh bien on répond souvent à des obligations légales, donc on paye moins. Oui. Et c'est le cas pour les personnes en situation de handicap.
Même si, encore une fois, il y a des entreprises qui préfèrent aujourd'hui payer des amendes plutôt que d'employer des personnes handicapées.
On l'a beaucoup dit à une époque. Aujourd'hui, les pénalités, lorsqu'on ne fait pas du tout, sont très lourdes. Et encore une fois, je reviens sur ce qui était évoqué tout à l'heure. On a un changement de mentalité et de culture d'entreprise par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les employeurs viennent nous voir en disant « J'aimerais bien faire, mais je sais pas comment m'y prendre. Je peux pas, moi, aménager mes locaux. » Je ne peux pas accueillir une personne en fauteuil roulant, etc. Et c'est là, justement, qu'on travaille les représentations, qu'on essaie de rassurer et qu'on fait toute cette activité de conseil que porte aujourd'hui la GFIP avec une offre de services dédiée aux entreprises, quelle que soit leur taille, pour mieux répondre à leur obligation d'emploi et pour dérouler véritablement une politique handicap.
Et c'est une richesse de cette jeune génération, la génération qui est en train d'arriver là, sur le marché du travail, qui fait attention à tout ça. C'est-à-dire que j'ai vu récemment, il y a l'index égalité qui vient de sortir. L'index égalité, donc, qui va mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. J'ai des jeunes, là, qui sont en contrat de professionnalisation. Ils ont 18 ans. Eh ben, quand ils vont dans une entreprise, ils leur disent bah, « Ok, vous nous dites, vous affichez des résultats, est-ce que voilà, quelles sont les preuves de ce que vous faites ?» Donc tout ça, c'est en train de changer, ça va mettre beaucoup de temps, mais effectivement, dans l'école, si on parle de la différence, ben, ça va faire aussi boule de neige et ça va arriver dans les entreprises. Donc nous, on est toujours un petit peu en arrière.
Vous confirmez, Bruno Bassiotti, oui. La culture change ?
Oui, nous qui voyons beaucoup de jeunes, que des jeunes, de 13 à 25 ans, on se rend compte que l'environnement est de plus en plus quelque chose qui les préoccupe. L'environnement, ça fait pas. Enfin, l'inclusion fait aussi partie de l'environnement, parce qu'inclure ses proches qui sont en situation de handicap ou éloignés de l'emploi, ça fait partie de quelque part de notre environnement. Ils sont moins tournés vers ce qu'on était nous il y a 30 ans, l'argent, le profit, le matérialisme. Alors, à part le smartphone, mais ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus intéressants que nous, en tout cas.
Julien Viaud, avant d'écouter une nouvelle musique sur RCF, allez-y.
On y reviendra peut-être, mais je pense qu'une inclusion réussie, c'est aussi à un moment donné oublier d'où vient la personne, en tout cas sur les critères qu'on évoquait à l'instant. Une inclusion réussie de personnes en situation de handicap dans l'entreprise, c'est à la fin surtout retenir qu'elle est sympa, qu'elle est drôle éventuellement, ou pas d'ailleurs, qu'elle a des compétences surtout, mais pas qu'elle est en situation de handicap. Alors évidemment, on a des situations de handicap visibles, hein, mais c'est oublier aussi qu'elle vient de quartiers difficiles, c'est oublier que, je sais pas, elle a pu être intégrée dans un process spécifique, on voit les chartes LGBT, etc. À un moment donné, la question principale dans l'entreprise, c'est celle de la compétence, on l'a dit, mais c'est important. Et c'est ça la démarche d'inclusion, c'est que effectivement, l'environnement puisse s'ouvrir à tous et donner la chance à tous.
Comment lever les freins aussi pour justement favoriser cette culture de l'inclusion ? Nous allons en parler dans 3 minutes sur RCF, juste après cette nouvelle pause.
On était quelques hommes. Quelques hommes, quelques femmes rêvant de liberté.
On n'était pas à vendre, mais on pouvait revendre des montagnes d'amitié.
Le cœur en bandoulière et les bras grands ouverts à tous les étrangers.
On n'avait pas de peur, on sentait la chaleur qu'on savait se donner.
Même au fin fond du désert, on aidait les plus faibles à ne jamais tomber.
Même au milieu des chimères, on y croyait plus fort quand le courage manquait.
Oh vous mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelles que soient vos histoires, n'oubliez jamais qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse. Reste qu'un, nous serons ce dernier.
On était plein d'ardeur et l'on sortait vainqueur de nos pauvres blessures.
Quand les pleurs étaient lourds, on se trouvait toujours une voix qui nous rassure.
On avait tant d'envie qu'on voyait notre vie comme une belle aventure.
On n'avait pas de maître, la seule à nous soumettre était la mère nature.
Même au fin fond du désert, on aidait les plus faibles et quitte à y rester.
Même au milieu des chimères, on y croyait plus fort quand le courage manquait. Oh vous mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelles que soient vos histoires, n'oubliez jamais qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse. S'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier.
Même au fin fond du désert,
on aidait les plus faibles à ne jamais tomber. Même au milieu des chimères,
on y croyait plus fort quand le courage manquait.
Oh vous mes compagnons, mes amis, quelle que soit mon histoire, non, je n'oublie jamais. Et aujourd'hui encore, je refais la promesse. S'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier. Oh, vous, mes compagnons, mes amis de jeunesse,
Quelles que soient vos histoires, ne m'oubliez jamais. Et si un jour je tombe, faites-moi cette promesse. S'il n'en reste qu'un, vous serez ce dernier. Ce dernier. Ce dernier.
La promesse. C'était Grégoire en duo avec Jean-Jacques Goldman.
Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCF.
Plus qu'une mode, l'entreprise inclusive, c'est un défi économique mais aussi social qui est censé profiter à tous. Bref, une stratégie gagnant-gagnant dont nous continuons de cerner les enjeux avec mes invités. Sylvie Leoloco, chef de projet diversité à Acto Île-de-France, Bruno Bassiotti, président de l'association Entreprendre pour apprendre Île-de-France et Julien Viau, chargé d'études à l'AGFIP. Alors, comme on arrive au terme de cette émission, même si on en a parlé au début, pour boucler la boucle, est-ce que vous pouvez nous rappeler chacun les compétences des associations et des structures que vous représentez, Julien Viau?
Alors l'AGFIP gère depuis plus de 30 ans les fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. On rappelle que la loi oblige les employeurs, quels qu'ils soient, publics, privés, associatifs, à employer 6% de travailleurs handicapés. Lorsque ça n'est pas le cas, elle verse des contributions pour le secteur privé à la GFIP, pour le secteur public au FIP, FIPHFP, et nous déployons à partir de ces fonds une offre d'intervention et de services à destination et des publics pour favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Hein, on évoquait les aménagements des contextes de travail, etc. Alors évidemment, c'est notre métier. En compensation du handicap, on va favoriser l'accès à l'emploi. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, toute une offre de conseils à destination des entreprises pour les aider à bien s'approprier la réglementation. On a une obligation d'emploi de travailleurs handicapés qui a évolué récemment. Donc bien comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les premières bonnes pratiques, les premiers pas, hein, sans, et je dirais sereinement, dans la mesure du possible. Ça n'est pas une révolution qui doit être amenée dans l'entreprise, mais c'est quelques actions à mettre en place. Une adaptation et pas forcément. C'est-à-dire que parfois, on recrute une personne en situation de handicap comme on recruterait un profil traditionnel, parce que le travail en amont de préparation via des services comme Cap Emploi a été fait correctement. Et puis parfois, effectivement, il faut adapter la situation de travail. Donc, une offre de conseils aujourd'hui aux entreprises pour qu'elles s'approprient bien l'obligation d'emploi et qu'elles comprennent quels sont les premiers pas efficaces pour mieux répondre à cette obligation d'emploi. Nous développons aussi depuis plusieurs années un réseau des référents handicap. C'est un espace, alors on réunit un atelier par trimestre, un espace où les entreprises vont pouvoir échanger entre elles sur les bonnes pratiques, sur les freins, sur des idées, des initiatives qui auraient fait avancer le sujet du handicap en entreprise.
Sylvie Leoloco, alors Acto,
c'est quoi? Alors depuis le 1er janvier, le nom est nouveau, c'est le regroupement donc de 5 OPCA.
OPCA, ça veut dire quoi? Expliquer, parce qu'il y a beaucoup d'abréviations dans ces organismes-là.
OPCA, l'opérateur. C'est simplement le nom qui a changé avec la réforme et on est devenu, donc l'OPCO, c'est l'opérateur de compétences. Avant, donc le réseau Acto, c'était OPCALIA, FAFI, FAFTT, Intergro et la propreté. Voilà, on s'est tous réunis, c'est les entreprises à forte intensité de main-d'œuvre. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner alors 27 branches professionnelles dans leur stratégie de développement des compétences, notamment ce qui parle à tout le monde, l'apprentissage et l'alternance.
Et sur la question des diversités et de l'inclusion.
Voilà, donc moi je suis chef de projet au niveau de la diversité, alors c'est handicap, égalité professionnelle et aussi les seniors. Je travaille depuis de nombreuses années, depuis 15 ans avec l'AGFIP, parce que je vais dans une entreprise et il y a des besoins, mais moi je suis juste un opérateur de compétences et je vais faire appel à différents acteurs, dont l'AGFIP pour les personnes en situation de handicap.
Et on rappelle, pour terminer, Entreprendre pour apprendre, Île-de-France, j'imagine qu'il y a d'autres antennes un petit peu partout, comment ça se passe?
Alors, nous sommes effectivement une grosse fédération. Il y a 15 associations régionales, y compris dans les DOM-TOM. Nous sommes aussi rattachés à une association internationale qui s'appelle Junior Achievement. Donc, vous voyez, c'est très large. Notre fonds de commerce, entre guillemets, puisqu'on est une association, mais bon, on se refait pas 30 ans de chef d'entreprise, c'est de créer des mini-entreprises dans les collèges, les lycées, les missions locales, les écoles de la deuxième chance et les prisons, pour créer un produit avec les jeunes ou un service et puis le vendre ensuite. L'objectif étant de donner confiance en soi aux jeunes, de leur ouvrir les portes du monde du travail et beaucoup de cas de raccrochage scolaire aussi.
Alors, c'est vrai que l'inclusion, je le disais en introduction, c'est un mot qui peut être un peu à la mode. Il peut y avoir un effet un peu marketing sans que ce soit relié à une réelle substance. Pour autant, les choses existent, les choses avancent, mais il y a une vigilance à avoir pour ne pas justement en rester aux mots, à l'affichage. L'inclusion, ça doit se traduire par une prise de responsabilité des entrepreneurs, aussi des personnes concernées, Julien Viau.
C'est exactement ça. Ce qu'on porte tous les trois, c'est effectivement un conseil à l'entreprise au-delà des obligations légales. Et encore une fois, elles l'assument assez bien, ces entreprises, hein, cette dimension responsabilité sociale. Et puis, je pense que, on parlait hors antenne dispositif, moi je pense qu'il y a des choses très concrètes qui peuvent être mises en place et qui permettent de rapprocher certains publics de l'entreprise. On pense à la période de mise en situation en milieu professionnel, l'ancienne EMT, évaluation en milieu de travail, effectivement il y a beaucoup de sigles dans nos secteurs. La PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel, permet d'accueillir une personne pendant 15 jours, éventuellement un mois, ça peut être reconduit une fois, pour l'aider à découvrir un secteur, un métier, pour l'aider à valider un projet professionnel, et puis peut-être préalable au recrutement aussi, voir quel est son positionnement, comment elle s'intéresse, elle se tourne vers l'équipe, elle découvre l'environnement de manière constructive. Et ça, c'est du test, ça, c'est du concret, et ça permet de vérifier le positionnement d'un candidat au-delà du process de recrutement, c'est important.
Dans votre association, Bruno Bassiotti, vous vous appuyez sur ce genre de dispositif ?
On essaye d'expliquer à toutes nos entreprises partenaires, qu'elles soient grandes ou petites, puisqu'on en a quand même une cinquantaine à peu près, ça va d'aéroports de Paris à des banques, etc., que ce genre de dispositif existe et qu'ils peuvent en profiter pour inclure les jeunes. Je souhaiterais que vous insistiez sur le fameux PMPS. Alors, je ne sais pas exactement comment... Parce qu'en fait, on connaît très peu ces dispositifs et si vos auditeurs ont la chance de recruter des gens, qu'ils soient entrepreneurs ou RH ou commerçants, parce qu'on peut utiliser ce dispositif si vous êtes commerçant.
Absolument. Et répétons donc tous ensemble, PMSMP.
PMSMP. Ça a été dur pour moi aussi.
Et ça veut dire
période de mise en situation en milieu professionnel, PMSMP. En gros, c'est un stage de découverte, voilà, ou de validation de compétences de 15 jours jusqu'à un mois maximum.
Et ça coûte rien à l'entrepreneur ?
Rien.
Non, et les personnes en situation de handicap, justement, parce qu'elles sont dans des difficultés. Il faut savoir qu'une personne, elle arrive avec un passé. Donc il faut aussi enregistrer tout ça, il faut reprendre confiance en soi. Et elles disent, essayez-nous. Voilà, donc des dispositifs comme ça se permettent justement de mieux se connaître de l'entreprise, la personne, et ça matche ou ça ne matche pas. Mais au moins, on aura essayé.
Et comment vous comprenez qu'on... connaissent pas, enfin quand je dis on, ce sont les employeurs, connaissent pas suffisamment ce genre de dispositif.
À chaque secteur, ses techniques, ses outils, ses spécificités, ça moi je suis assez à l'aise avec ça. Justement, les services sont aussi présents, disponibles, qu'ils soient Pôle emploi, Cap emploi, AGFIP, Réseau, OPCO, etc., pour conseiller les entreprises. L'entreprise ne peut pas tout connaître, et justement, elle attend aussi de ces réseaux de conseils la mobilisation des bons dispositifs. Donc ça, c'est pas un souci. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que pour une personne en situation de handicap, c'est un excellent outil de sensibilisation. On accueille pendant 15 jours une personne dont on sait qu'elle a eu des problèmes de santé, tout ça est un peu mystérieux, on voit bien quelles peuvent être les représentations, et en fait, on se rend compte que la personne est très positive, qu'elle est intéressée, qu'elle a même un parcours professionnel dont elle va parler, dont elle va témoigner. Et on se dit, finalement, ça pourrait être ma collègue. Il n'y a rien de plus efficace, y compris pour le recruteur.
Bruno Bassiotti, oui, cette alors... mise en récit, faut aider les personnes issues des diversités à pouvoir la faire.
Oui, juste pour revenir au point précédent, pourquoi les entreprises ne connaissent pas ? Je me place du côté employeur. Que j'ai été quand même pendant 20 ans. En fait, on reçoit beaucoup, nous, les CCI, des conseillers qui vont nous aider à trouver de l'argent pour des subventions, pour faire simple. Hein. On rencontre assez peu le Pôle emploi. En fait, le Pôle emploi s'intéresse assez peu à l'entrepreneur. Et c'est le Pôle emploi qui devrait nous dire, à nous employeurs, ce dispositif, le PM...
SMP.
Merci.
Il faudrait qu'il existe. Trouve quelque chose de plus simple.
Oui, parce que le nom est un peu compliqué quand même.
On va faire un concours pour changer de nom.
Ouais, je suis un peu 10 quelque part. Donc là, le PMSP, je ne sais pas quoi, c'est compliqué. Mais maintenant, j'ai compris. Et si je vous dis ça, c'est que j'ai une amie qui s'appelle Laure qui est en train de monter une boîte qui va promouvoir pour le Pôle emploi ce genre de dispositif.
Donc finalement, il faut aider l'État à développer certains dispositifs.
À sensibiliser, parce que les dispositifs, ils sont là. Le DUOD, par exemple, qui est une fois dans l'année, qui est porté au niveau européen, hein, qui est porté par la secrétaire d'État. Voilà, c'est des dispositifs qui coûtent rien. C'est une journée, voilà. Tout ça, il faut sensibiliser. Je crois que les entreprises ont aussi le nez dans le guidon à l'heure actuelle. Tout va très vite. Il faut remplir les carnets de commandes. C'est extrêmement compliqué. Donc, il faut un petit peu soit sortir de l'entreprise, mais ça, c'est difficile, soit quelqu'un qui rentre dans l'entreprise. Donc, c'est notre rôle et c'est le rôle de certains, mais
Julien
tout va vite.
Et pour rappel, un DUOD, c'est effectivement la constitution, le temps d'une journée, d'un duo personne en situation de handicap, employeur ou parrain dans l'entreprise. On a un dispositif proche à la GFIP qui s'appelle Un jour un métier en action, qui est mobilisable à tout moment de l'année. DUOD, hein, c'est plutôt mi-mai, c'est effectivement un événement européen. Un jour un métier en action, une convention de stage d'une journée, excellent outil de sensibilisation, et puis la rencontre entre une personne en situation de handicap qu'on n'aurait pas accueillie traditionnellement, et puis une entreprise qui est ouverte.
On arrive au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à chacun d'entre vous d'y avoir participé. Julien Viaud, Sylvie Léoloco et Bruno Bassiotti. Quelle inclusion en entreprise? On peut bien sûr réécouter cette émission si vous avez manqué le début sur rcf.fr.